5-7.
Debout.
Debout. Entre chien et loup.
Couché. Couché.
Florent Chatin.
C'est une espèce rare que nous accueillons ce matin, paraît-il, nous l'apprécions comme telle. Deux femmes, faites pas les gros yeux d'abord, qui ont accepté de se lever tôt pour parler de leur métier, une passion aussi, un art considéré comme le neuvième du genre et dans lequel 90% d'espace est occupé par les hommes. Existe-t-il un ton, une différence, un style propre qu'ont su s'approprier les femmes dans la bande dessinée? Une BD scénarisée par une femme, ça change quoi? Et pourquoi un tel décalage avec les hommes, alors qu'on le verra, au Japon, les femmes représentent près de la moitié des auteurs de BD. La BD au féminin, ce matin, sur France Inter. Et celle qui me faisait les gros yeux, j'en étais presque sûr, c'est vous, Chantal Montelier, bonjour.
Paranoïaque.
Un petit peu, mais je me soigne. Vous vous définissez comme une ouvrière de l'image narrative, créatrice du prix Artemisia, nous en parlerons évidemment d'ici 7 heures. Depuis début des années 70, vous faites plus que de la BD, vous militez, ça vous va comme interprétation de votre action?
Militer, je sais pas, non, je trouve pas que je sois une militante, je trouve que je suis plutôt, oui, l'ouvrière, ça me va bien. Je sais pas si vous avez, je vous ai pas très bien entendu, si je suis tellement loin de vous là. Ouvrière, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que ça renvoie à l'idée de
ouvrière de l'image narrative.
Ouvrière, oui, œuvre, ouais. Hier, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Non, c'est une expression que j'ai empruntée à un musicien que j'aime beaucoup, un musicien de jazz qui s'appelle Bernard Luba, qui se définit de cette manière là. Donc à l'œuvre, c'est toujours un peu ambitieux de parler d'œuvre, surtout à notre époque. Mais il y a le côté quand même travail assidu.
Vous êtes une pionnière dans l'univers de la bande dessinée en France?
Il semblerait, oui. J'ai démarré dans les bonnes années, j'allais dire, à savoir début 70. Mmh. Et à ce moment-là, il y a eu quand même une entrée des femmes, pas massive, mais notable, dans la bande dessinée, dans le 9e art, comme on dit. Je suis pas sûre que la bande dessinée mérite encore l'expression art, parce que ça reste quand même surtout globalement un artisanat encore très très commercial, quoi. Voilà. Donc les années 70 ont été des années propices à la floraison de certains talents de femmes en bande dessinée et aussi dans le dessin de presse d'ailleurs.
Alors
dont je viens.
On va, et c'est rare à la radio, avoir du temps pour retracer cette épopée quelque part et l'origine de la bande dessinée au féminin en France et nous faire revivre donc cette période des années 70. En face de vous est installée Audrey Alouette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste.
Tout à fait.
Vous avez moins de 30 ans, mais vous vous êtes déjà frottée à diverses facettes de ce métier.
Oui, en effet.
Avec des hauts, des bas, des joies et parfois quelques...
Toutes les petites aventures et mésaventures que peuvent rencontrer les auteurs qui démarrent dans ce milieu et comme tout le monde.
Vous travaillez au sein du studio Gottferdom.
Tout à fait.
À Aix-en-Provence et nous allons pouvoir croiser justement, c'est tout l'intérêt de votre rencontre ce matin, vos expériences et votre regard sur la bande dessinée au féminin ce matin. L'idée c'est d'abord parler de la bande dessinée au féminin et puis dans quelques jours, bon c'est pas forcément un hasard, il y aura lundi la journée de la femme. Ceci expliquant aussi cela. Est-ce que vous vous connaissiez l'une et l'autre avant cette rencontre ce matin provoquée dans ce studio?
Je crois que je vous avais déjà entreaperçu l'année dernière au festival féminin d'Igny, il me semble, mais on s'était jamais parlé.
Je devais avoir une doublure alors, parce que non, je suis pas allée quand j'ai vu
votre association.
Quand j'ai vu à quel point le travail des femmes était absent des cimaises. Donc je trouvais étrange un festival qui se dit un festival au féminin alors que très peu d'œuvres, voire pas du tout, de femmes sont exposées, que l'affiche est signée par un homme, etc. Ça c'est peut-être mon côté militant.
Non, je parle du festival féminin.
Curieusement.
Voilà, on y vient.
Je parle du festival féminin.
Alors justement,
oui, c'est ça, oui.
Vous l'évoquiez.
C'était fait par une femme l'année dernière.
Pardon?
C'était fait par une femme l'année dernière.
Quoi?
L'affiche.
Non, c'était fait par un... Non, c'est une signature masculine.
Peu importe ça.
Alors oui, c'est vrai que c'est curieux pour un festival féminin que l'affiche soit faite réalisée par un homme, mais enfin on va pas épiloguer là-dessus. D'entrée, néanmoins, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, Audrey Alouette, il y a ce festival BDSON
qui a lieu ce week-end.
Voilà, auquel vous participerez.
Oui, tout à fait.
Voilà, vous êtes votre présence à Paris
est expliquée par cela.
Ce festival. La nuit, le matin tôt. Est-ce une heure, d'après vous, propice pour dessiner, pour scénariser, pour imaginer. Vous dessinez à quelle heure?
Eh bien, rarement avant 9h du matin, je dois reconnaître, oui.
Donc c'est pas une fulgurance, une création nocturne, bande dessinée, pas forcément.
Écoutez, je sais pas si c'est un phénomène lié à l'âge, mais il est sûr que je me mets au travail aujourd'hui beaucoup moins tôt que je ne m'y mettais quand j'avais l'âge de ma voisine. Donc voilà, par contre, il m'arrive de travailler relativement tard.
Audrey. Moi, je travaille souvent très tard, oui, la nuit, parce que tout simplement, c'est le moment où tout le monde me fout la paix.
Oui, c'est ça.
Je suis pas comme à côté, je suis aussi éditrice, je suis pas sollicitée sans arrêt par ma maison d'édition, les auteurs, ceci, cela. Donc, c'est le moment où on me laisse enfin tranquille et où je peux enfin m'exprimer.
Je voyais cela comme un métier assez solitaire. D'ailleurs, j'allais dire auteur. Êtes-vous auteur, scénariste? On va essayer de décortiquer, de comprendre comment vous travaillez, mais est-ce un métier solitaire, une activité? Parce que...
Horriblement. Oui. Horriblement. Absolument. Oui, c'est même quelque chose d'assez parfois difficile à vivre, quoi. Surtout quand le téléphone ne sonne pas suffisamment. J'aurais peut-être dû, moi aussi, créer une collection et avoir quelques auteurs pour venir m'embêter.
Pour pleurer dans vos jus.
Non, peut-être, oui. Non, c'est sûr qu'on passe parfois des journées entières, non pas dans les arbres, comme dirait l'autre, mais vraiment entre ses chats et... Voilà, et sa table à dessin ou son écran d'ordinateur, de ce point de vue-là.
Alors, pour moi, c'est très différent parce que je travaille en studio et comme beaucoup d'artistes qui ont fait ce choix justement de travailler au sein d'une petite communauté dans un appartement, finalement, j'ai qu'à sortir de mon bureau pour voir du monde, pour aller boire un café avec une illustratrice jeunesse, un dessinateur, ceci, cela. Mais bon, de toute façon, je crois que, comme Chantal dit, on est toujours seul dans ce métier parce que quelque part, faut s'enfermer dans sa tête pour écrire ou pour dessiner. Donc c'est de toute façon un métier où on est tout seul dans sa tête.
Comment vous définissez-vous? Vous êtes auteur de BD, plutôt scénariste?
Moi je suis scénariste et j'ai aussi la casquette de novelliste à côté, mais bon, qui me rapporte malheureusement beaucoup moins d'argent.
Novelliste, c'est-à-dire?
J'écris des nouvelles.
Ah oui, novelliste, d'accord, pardon. J'avais pas compris. Alors, on va continuer à décortiquer, je le disais, et revenir notamment aux origines de la BD en France avec les années 70 que l'on va continuer à évoquer avec vous, Chantal Montelier et Audrey Alouette. On parle de la bande dessinée au féminin ce matin. Avec cette découverte de l'univers de la BD vue du côté féminin, on va remonter le temps, les années 70, Chantal Montelier, et surtout sur ce retard pour essayer de comprendre pourquoi, on l'a peut-être pas encore assez dit, mais à peine 10% des auteurs de BD sont des femmes en France. Est-ce qu'on peut trouver l'explication de ce déphasage justement dans les origines de la BD en France ?
Si étant, peut-être qu'elles ont beaucoup mieux à faire. Les femmes, elles font peut-être des choses plus sérieuses que de la BD.
Vous avez un petit côté espiègle, quand même.
Quand même, oui, malgré tout. Donc, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Moi, j'y suis venue un peu par hasard à la bande dessinée. J'y suis venue parce que, d'abord, dans un premier temps, j'étais prof d'art plastique et je pense que je serais très vite rentrée en dépression nerveuse définitive si je l'étais restée. Tellement le goût des enfants pour le dessin est prononcé. Bref,
et j'ai eu la possibilité. Là, c'est l'humour noir. C'est-à-dire, vous considérez, vous avez le sentiment que le dessin est le parent pauvre des activités artistiques, ou pourquoi le goût des enfants ne serait pas assez prononcé?
Écoutez, c'était mon constat pendant les quelques années où j'avais la casquette de prof, quoi. C'est-à-dire, les mômes. Il y en a toujours, il y en a un petit pourcentage que ça intéresse vraiment, mais disons que c'est un pourcentage quand même assez minime, de l'ordre, enfin moins de 10% en tout cas. Et pour le reste, bon, ben ils subissent, ils font semblant, et de toute façon, comme à l'époque, bon, les coefficients, la valorisation de la chose n'était pas non plus très 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 grande, quoi. Mmh. Donc il y a aucune sanction, qu'on soit bon, pas bon, qu'on travaille pas, ça changeait strictement rien, quoi.
Les jeux vidéo arrivant là-dessus, ça a pas dû arranger les choses.
Bon, bref, donc j'ai déserté l'éducation nationale, ce qui est un peu gênant par rapport à ma retraite, mais bon. Mais au profit, non pas de la bande dessinée, mais du dessin de presse. Donc les années 70, ça a été aussi le début du dessin de presse féminin. C'était très, C'était petit, on n'était pas très nombreuses. Mais en fait, il y avait quand même pas mal de signatures, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, où je crois qu'il y a à peu près une seule rescapée, Catherine, je ne sais plus comment, à qu'elle m'excuse, qui dessine pour Charlie Hebdo. Voilà. Et moi, je n'ai plus un millimètre carré nulle part dans la presse. Et c'est ce que je regrette.
C'est une période aussi militante. Vous exprimez à cette époque-là une forme de radicalité.
Vous savez, la radicalité, quand on tombe dedans, c'est difficile d'en sortir. Donc, oui, bien entendu, mais radical au sens, je crois qu'on est, la radicalité était la chose du monde la mieux partagée à cette époque-là. Ouais. Enfin, ça se faisait d'être radical. Ce qui se fait moins, c'est de le rester longtemps.
Mais la bande dessinée devenait un moyen d'expression, d'exprimer cette...
Donc, oui.
Le refus de l'oppression.
Enfin, moi, ma radicalité passait plutôt dans le dessin de presse politique. Et c'est la bande dessinée qui est venue me chercher pour travailler et remplir les pages d'un mensuel qui est resté le premier journal de bande dessinée féminine, au féminin, enfin, au sens où il y avait là une proportion de femmes qui était très, très supérieure. Enfin, c'était même un rapport inversé. C'est-à-dire que dans les journaux de l'époque, parfois, on trouvait une signature féminine au milieu de 99 signatures masculines. Et dans ce journal qui s'appelait Anana, je ne suis absolument pas responsable du titre, c'était une proportion inverse. C'est-à-dire qu'on avait un invité... un dessinateur qu'on persécutait, bien évidemment, tous les mois.
Il y a eu, à un moment donné, un problème avec cette parution, Anana. Vous pourriez nous expliquer pourquoi ce Anana a connu quelques difficultés. C'est justement parce qu'il y avait une surreprésentation des femmes ?
La censure n'en était quand même pas là. C'est pas parce qu'il y avait une surreprésentation, quoique peut-être qu'en grattant, on s'apercevrait qu'au fond, c'est surtout ça qui était le problème, c'est-à-dire que l'imaginaire féminin, voilà, dérangeait. Il a été censuré au 9e numéro. J'ai jamais très bien su exactement pourquoi. J'avais entendu dire dans un premier temps que c'était à cause d'une pornographie que ce journal ne contenait absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y avait des. Moi, je faisais pas partie de la rédaction. Hein. Je me contentais de livrer des planches. C'est vrai que très souvent les titres étaient un peu accrocheurs sur le thème, le sexe et les petites filles. Enfin, sans que ce soit sans que le contenu corresponde à ce côté accrocheur, quoi. Puisque bon, les dessinatrices faisaient chacune un peu ce qu'elle avait envie de faire. Moi, en l'occurrence, je faisais une série sur les bavures policières, par exemple. Ouais. Donc, quel que soit le titre. Tant qu'on a été interdit pour une pornographie qui était absolument pas là.
Et est-ce qu'il y avait, donc, à vous sûr, il y avait plus de femmes dans les années 70 dans la BD qu'aujourd'hui ?
Non, je pense qu'il y en avait moins. Il y en avait moins. Je veux dire, des signatures qui émergeaient vraiment, enfin, de manière assez visible, régulière, professionnelle. Ça se comptait sur les doigts d'une main. Je veux dire, on peut signaler, évidemment, l'incontournable Claire Bretécher, qui est en fait la véritable pionnière de la bande dessinée féminine, disons adulte, enfin, s'adressant à un public adulte. On avait, par exemple, aussi, de manière assez visible, Nicole Claveloux, qui, elle, venait de la bande dessinée pour enfants et du dessin pour enfants, qui travaillait pour les éditions Bayard, et qui a dû y retourner après la censure d'Anana. C'est-à-dire, elle n'a jamais réussi à retrouver une place dans la bande dessinée adulte. Moi, j'ai réussi parce que je touchais à des sujets, les bavures policières, des choses comme ça,
sujets sensibles entre guillemets, enfin engagés forcément. J'ai vu des dessins de
genre un peu critique sociale, quoi.
D'une de vos BD, ça, on y reconnaît certains hommes politiques quand même.
Excusez-moi.
On reconnaît certains traits d'hommes politiques.
C'est bien possible.
Audrey Alouette, est-ce que vous êtes intéressée à l'origine de la BD en France à cette période des années 70?
Est-ce que je m'y suis intéressée
historiquement, par curiosité?
Oui, non, j'ai pas fait d'études sur la BD, sur la question précisément. J'ai pas fait d'études sociales sur l'arrivée des femmes dans la bande dessinée. J'avoue que je me suis plus sentie concernée par ma propre époque. Je reconnais tout le côté pionnier que ces femmes ont rencontré à cette époque-là. Et puis c'est vrai que d'ailleurs, quelque part, aujourd'hui, ça s'illustre par une nette différence. C'est que donc, à l'époque de Claire Bretécher, il y avait quand même un petit côté où les femmes devaient vraiment s'engager. avec un côté, je vais être plus couillue que vous tous. Et non, mais c'était le côté. Je trouvais leur dessin vraiment punchy et justement, on était. Enfin bon, même pour une femme pour exister, elle devait s'engager et donc faire de la BD intelligente, politique, etc. Aujourd'hui, la jeune génération qui arrive, je dirais qu'on est quand même, je crois, je peux me tromper, libérée de tout ça, c'est-à-dire qu'on se sent
Libérer de l'intelligence et de la politique, c'est dommage.
C'est-à-dire qu'en fait, on se sent le droit de se faire plaisir.
Ah ben moi, je me suis fait beaucoup plaisir en étant intelligente et en faisant de la politique.
Oui, mais bon, la BD populaire interdit pas d'être intelligent.
Non, mais c'est vous qui. Enfin bon, pas.
Mais comment dire, c'est-à-dire que là, on peut
L'idée,
se dire.
L'idée, c'est pas de vous opposer pendant une
heure. Oui, non, voilà.
Plus, hein.
On s'est dit, c'est voilà, on peut conquérir le monde avec des rubans et on peut se permettre enfin d'être légère et de sortir des bandes dessinées où on se fait plaisir, où on fait de la chick-lit, où on fait de la comédie romantique, du shoujo, tout ça. Enfin, on a le droit, il y a enfin une place pour nous, et donc on peut se permettre d'avoir un dessin très féminin, très sensible, qu'on a dû
Italiens ou au manga. Chose
on va y revenir.
Brièvement,
ouais.
Non, mais vraiment,
oui,
non.
En complément.
Non, je trouve que c'est une lecture complètement caricaturale, très, très pleine de préjugés, finalement.
Alors, c'est intéressant. Alors,
Montpellier faisait des choses assez engagées, certes, ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, Andy Gang, par exemple, mon flic bavard, c'était plutôt rigolo. Rigolo, en fait. Alors, mais Clavelot, par exemple, revisitait les contes de fées sur un mode aussi très rigolard. Donc, on savait aussi cultiver et la légèreté et l'intelligence et un certain engagement.
Et je suis pas sûr que je vais arriver à vous mettre d'accord, mais j'aimerais tenter quelque chose si vous en êtes d'accord. Pendant que nous allons écouter Stacey Kent, eh bien, je vais, Audrey, vous livrer. Je vais demander à Cécile Griselin, qui arrive dans ce studio, de vous glisser les BD de Chantal. Et même exercice pour vous, Chantal. Et pendant cette chanson.
Un petit œil dessus.
Voilà, et puis un regard peut-être critique sur, sans aller trop frontalement, hein, visiblement, puisque vous. Non, mais bon, vous direz ce que vous avez envie de dire. Mais comme ça, vous pourrez nous livrer votre opinion sur d'artistes et de professionnels sur ces ouvrages que vous avez désormais en main. 5h23. Nous continuons à découvrir, à parler de bandes dessinées au féminin ce matin en compagnie d'Audrey Alouette, qui est scénariste, et Chantal Montpellier. Je vous ai donc fait passer ces ouvrages l'une de l'autre et inversement pour avoir votre opinion. On va commencer avec Chantal Montpellier. Vous venez de terminer ou de refermer, non, vous êtes encore sur l'une des pages l'une des BD d'Audrey. Alors un regard j'allais dire d'artiste effectivement, hein, sur la construction et sur cette BD telle qu'elle est dessinée aujourd'hui par Audrey.
Ah non, moi je dessine pas, édité.
Édite, pardon.
Bah écoutez, voilà, on en est là, quoi. Donc bon, j'ai regardé trois des albums. Donc ça s'adresse aux filles, aux jeunes filles. Donc le premier album, le bal, la jeune fille qui se prépare à aller au bal, le bal d'hiver. Donc on ouvre sur une robe de bal, comme on n'en fait plus heureusement, c'est-à-dire guêpière, cerceau, enfin je sais plus trop comment on appelle ces trucs-là. Bon, des trucs vraiment, c'est pire que la burqa, quoi. Enfin c'est pas loin. En tout cas c'est dans le même ordre d'esprit pour moi. Voilà. Donc deuxième album, Princesse Sarah. La Princesse Sarah, donc aussi une jeune fille pas mal enrubannée en effet. Avec sa petite poupée, bon, la princesse, mine de diamant, pour une mine de diamant, voilà, la princesse Sarah dans sa mine de diamant.
Bon,
donc la Lolita. Donc la princesse, le bal, la Lolita. La Lolita, être Lolita, c'est d'abord faire plaisir à la princesse qui est en soi. Mais encore, une Lolita apporte toujours le plus grand soin à sa toilette.
Bon, c'est pas votre tasse de thé.
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on recule de quelques siècles, quoi. Mais ça va avec le reste. Ça va avec le reste. On ne s'est pas battu pour ça. Et je veux pas être légère, je trouve que vraiment, tout ça est à chialer. Voilà.
Parce que ça correspond pas aux idées que vous avez défendues.
Non, c'est pas un terme d'idées, c'est pas, enfin, si, il y a des idées, oui, il y a des idées d'émancipation, de liberté, de liberté de mouvement, de liberté d'esprit. Là, on nous remet, dans la mine de diamants de la princesse avec la Lolita et puis, et sa couturière.
Parole à la défense. Alors, Audrey, est-ce que vous comprenez d'abord, bon, Chantal Montpellier est visiblement un petit peu énervée par ce qu'elle vient de voir, mais est-ce que vous comprenez quand même la remarque sur ce qu'elle a pu défendre à une époque
Oui.
cette équation-là qui n'est pas évidente aujourd'hui.
Mais tout à fait, je le comprends, mais je suis désolée, pour moi, c'est aujourd'hui, il y a un féminisme qui est dépassé, tout simplement. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir avec tout simplement de l'univers en costume, de l'histoire en costume, avec des rubans, des robes, etc. Parce que aujourd'hui, ça continue de faire rêver toutes les filles. La plupart des filles, si elles veulent se marier, tout simplement parce qu'elles veulent porter une jolie robe de princesse. Il n'y a pas de honte à avoir à ça. Enfin, je veux dire, on peut parler de la chose. De même que là, j'ai sorti un petit bouquin sur la danse. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez léger, qui parle d'une passion très féminine. Mais en même temps, ça empêche pas du tout d'aborder des sujets beaucoup plus graves à l'intérieur. Par exemple, je parle de la myopathie à l'intérieur de ce bouquin. Dans Eleanor Jones, Al Jazeera mène une intrigue tout à fait machiavélique, mais qui en même temps se veut très soyeuse, très douce. On est là, enfin bon, moi je fais de la BD populaire, je ne fais pas de la BD alternative. Le principe, c'est de faire ce qui finalement n'a pas encore été vraiment fait jusqu'ici, c'est-à-dire de la BD qui fait plaisir aux femmes dans le côté léger. C'est-à-dire, on peut se faire plaisir en lisant des choses, en lisant des histoires de princesses, en lisant des histoires de danseuses, en lisant tout ça. C'est pas parce qu'on aime ce genre d'histoire, c'est pas parce qu'on aime Bridget Jones ou ce genre de choses qu'on peut pas à côté lire du Stendhal. Je veux dire, il y a un temps pour tout, on peut se faire plaisir.
Chantal Montelier, est-ce que vous acceptez cette idée qu'on peut aussi avoir quelques légèretés dans la BD, puis des choses un peu plus engagées ?
Absolument, il y a légèreté. Moi, je ne sais pas. Oui, en effet, on peut se faire plaisir, mais on peut aussi se faire plaisir. Les petites filles et les jeunes filles, les grandes filles peuvent aussi se faire plaisir en lisant une bande dessinée qui nous donne à voir un autre modèle de femme, peut-être, peut-être pas une princesse, mais des femmes qui se battent pour au quotidien, ou des femmes qui ont envie dont le rêve et le plaisir, ça serait de faire de la recherche, ce serait de faire une création un peu forte, ça serait de composer de la musique, ça serait d'être journaliste.
Vous le jugez bien rapidement.
Voilà. Alors là, c'est Lolita, Girly.
Mais visiblement, vous ne connaissez pas du tout les Lolita japonaises.
Je vois vos bouquins.
Et vous ne connaissez pas du tout les Lolita japonaises, qui est un mouvement justement très très engagé.
Oui, non, c'est sûr que la Lolita, comme image de l'émancipation féminine, on fait pas
la
mieux.
La Lolita japonaise, qui est l'inverse de la Lolita nabokovienne. Et donc une Lolita très engagée.
Bon, je crois qu'on va pas vous mettre d'accord. Néanmoins, même exercice pour vous, Audrey Alouette, sur les bandes dessinées, donc signée Chantal Montelier, que vous avez parcouru. Vous n'avez évidemment pas en eu en 3 minutes le
Alors,
temps de
écoutez,
lire.
C'est quand même des BD à très forte pagination. Je vais quand même avoir bien du mal à me faire une idée de la
vrai.
Chose
non,
en
non,
si
mais
peu
c'est,
de temps.
C'est, on survole, hein, c'est pour ça que je l'ai stipulé. C'est vrai que vos bandes dessinées sont riches, un nombre de pages important, Chantal Montelier.
Oui,
non, c'est une caractéristique.
Ça se trouve, enfin, c'était le besoin du récit. Hein, je calibre pas le nombre de pages.
Oui, non, il y a pas de.
Voilà, sur ces 3 livres qui sont feuilletés par ma voisine actuellement, il y en a 2 qui sont des commandes des éditeurs pour l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Actes Sud m'avait demandé une bande dessinée qui devait sortir en même temps qu'un bouquin beaucoup plus, j'allais dire sérieux, non, savant, de Vladimir Tcherkov, qui est un peu le monsieur de Tchernobyl. Voilà, donc, j'avais la liberté de faire autant de pages qu'il était nécessaire de faire. Et c'est vrai que ça m'a amené à ce nombre de pages-là pour que le récit se tienne et aille au bout. Idem pour l'autre album, Les Damnés de Nanterre, et puis le Kafka, l'adaptation du procès de Kafka, qui m'a aussi été commandé par une éditrice anglaise. Bon, ben là, j'ai travaillé avec David Merovitz, qui en est donc qui l'a scénarisé. Et j'ai, voilà.
Sur la forme, simplement, Audrey Alouette, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oh non, c'est-à-dire que moi, c'est de la BD alternative.
Qu'est-ce que ça veut dire, pour vous, BD alternative ?
Pour moi, c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui s'oppose, mais qui est un petit peu différent de la BD populaire que moi je fais.
Mais c'est quoi une BD populaire pour vous ?
Mon
lectorat est un lectorat plutôt populaire. Hein. Je veux dire, je suis allée à Angoulême là, signer mes albums. Je peux vous assurer que c'était pas des princesses avec des colliers de diamants qui venaient me faire signer les albums. C'était un public populaire. Vous avez une drôle d'idée du public populaire. En ces temps, il faut que je parle avec plus de douceur parce que je vais aggraver mon cas.
Non, écoutez, je vais vous expliquer, moi, ce que je suis en train de me dire. C'est que nous avions préparé une émission que, vous voyez, elle est là, l'émission. Et en fait, elle est totalement différente de ce que j'avais imaginé.
C'est pour ça qu'il faut jamais rien préparer.
Oui, je suis quand même. Et je vais même mettre mes fiches de côté et vous écouter. Je trouve ça assez passionnant. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait cette confrontation et donc deux positions très distinctes qu'on peut mesurer. Mais c'est passionnant comme discussion et elle va continuer. Ce samedi matin, nous parlons de bandes dessinées au féminin avec deux points de vue pas tout à fait convergents. On l'a constaté depuis 5 heures. Chantal Montelier et Audrey Alouette, deux personnes qui travaillent dans la BD avec un vécu différent et donc des bases qui également mènent à des opinions qui divergent sur la bande dessinée aujourd'hui, ce qu'elle doit véhiculer et ce qu'elle peut représenter. Si je veux caricaturer totalement ce que vous venez pour résumer de nous dire, vous êtes un peu la BD Lolita, hein, c'est ça,
non,
Audrey?
Non, je n'aime pas ce thème parce que
je sais, mais je le dis sciemment. Et donc en face de vous,
je
Chantal Montelier,
la BD Kalachnikov.
Vous êtes un peu la BD militante. On va sortir.
Bien la BD princesse, mais pas la BD Lolita.
Quelle différence faites-vous?
Moi, je suis sur la Lolita japonaise et pour les occidentaux, c'est la Lolita nabokovienne, ça n'a rien à voir. Donc
bon, alors justement, on va sortir un petit peu de cette caricature-là et pour parler de la bande dessinée et de la représentation des femmes aujourd'hui dans cette profession, dans cet art. Pourquoi et comment expliquez-vous qu'il y ait 50% d'auteurs de bande dessinée au Japon alors qu'on dépasse à peine les 10% en France?
Moi, je dirais qu'au Japon, déjà, justement, il y a ce qui n'existait pas en BD franco-belge jusqu'ici et que j'essaye un petit peu de faire, de même que beaucoup d'éditeurs à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une large part du manga qui est dédiée au public féminin. C'est-à-dire que là-bas, il y a beaucoup de shoujo, ça représente quand même largement des shoujo.
C'est-à-dire
des mangas, c'est l'inverse du shonen. Ce sont des mangas qui sont dédiés à un public féminin, donc qui racontent des histoires d'amour, etc. C'est quelque chose qui est pas toujours, mais généralement très léger, puisqu'il y a des shoujo par contre qui sont très complexes, hein, bien sûr. Et c'est-à-dire que donc la lectrice est pas mise de côté comme elle l'a été longtemps dans la BD franco-belge. Par exemple, dans la BD franco-belge, on a vu pendant des années beaucoup de BD d'aventure, de fiction, etc., très très guerrier, très guerrière, où bon, c'était quand même destiné un petit peu à un public masculin, même si bon, les filles pouvaient tout à fait en lire. J'en ai lu beaucoup à mon époque, mais au Japon, il y a donc tout ce manga-là qui est destiné à un public féminin et qui donc du coup forcément attire aussi les auteurs féminins. Et puis même le trait manga a quelque chose de quand même souvent un peu plus doux que le trait franco-belge et c'est pour ça aussi que...
Je pense qu'on va faire hurler Chantal Montelier. Ils sont souvent aussi... Les femmes sont représentées souvent, je vais encore une fois être très caricatural, mais c'est pour essayer de faire comprendre, avec des seins énormes, des mini-jupes, etc.
Non, pas dans le shoujo.
Non, oui.
Ça, c'est les hommes qui dessinent.
C'était des bonnets imposants quand même. Hein,
voilà, non, ça pas dans le shoujo. Généralement, elles sont plutôt assez fluettes. Les japonaises sont plutôt toutes fines, avec pas forcément des seins énormes, non. Elles sont plutôt discrètes, les jeunes filles qui sont représentées dans les shoujo, donc à destination d'un public féminin.
J'ai pas dû tomber sur le bon alors. Chantal Montelier, comment avez-vous vécu cette arrivée des mangas, de cette représentation de la femme parfois un peu difforme?
Mon problème, c'est que je voudrais pas toujours dans la négativité. Écoutez, j'ai été invitée par des journalistes d'un, qu'est-ce que c'était, je crois, Chronicart, voilà, à Angoulême, il y a 2 ans, pour donner mon avis sur les mangas. Et les mangas au féminin, justement. Donc, j'ai dû en lire quand même un bon paquet, afin de pas dire trop n'importe quoi et de pas fonctionner sur des préjugés. Ceci étant, c'est vrai que graphiquement, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Enfin, il y a une espèce d'homogénéisation, il me semble, au niveau du style, déjà. C'est pour ça que quand vous parlez d'auteur femme, je me sens un peu perplexe, quoi. Parce que il y a un côté très industriel dans cette production japonaise. Pour les filles, comme pour les garçons, d'ailleurs. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, les femmes qui dessinent, sont loin d'être des ouvrières, c'est plutôt des ouvrières quand même. Et elles dessinent un peu sur commande. Enfin, en tout cas, tous les mangas que j'ai pu lire, visiblement, c'était fait sur le même modèle, quoi. À la fois donc des scénarios, souvent d'ailleurs des scénarios écrits par des mecs. Et puis il y a un côté très Oui, c'est le mot. J'en vois pas d'autres très, très industriels là-dedans. Mmh. Et effectivement, les contenus, au niveau du contenu des sojo, c'est ça. On retrouve quand même une thématique qu'on retrouve aussi dans votre production là de Soleil, destinée aux femmes, aux filles, c'est-à-dire histoire d'amour quasi obligatoire, de préférence un peu à l'eau de rose, où la fille est généralement en attente de l'intérêt que pourrait lui manifester le garçon. Un des sommets de ce que j'avais lu, c'était une histoire où vraiment, là aussi, il y avait une régression assez notable, au sens où le personnage féminin, une jeune femme qui avait beaucoup de mal à survivre professionnellement, finalement se mettait au tricot, et c'était vraiment l'apologie de la libération par le tricot. Donc, idéologiquement, il me semble quand même qu'on a fait mieux à certaines époques. Quoi.
Vous parliez d'Angoulême à l'instant. Quelle est l'importance des prix dans la bande dessinée au féminin? Là aussi, je pense que vous n'avez pas été totalement satisfaite, puisque vous avez vous-même, Chantal Montelier, créé un autre festival, lui.
Non. Une association, dans un premier temps, et ensuite un prix qui s'appelle le prix Artemisia.
Le prix Artemisia, voilà.
Qui est donc décerné chaque année depuis 3 ans maintenant à une femme dessinatrice et auteur de bande dessinée.
Quelle est l'importance de ce festival ou de ces prix dans la... Et quelle démarche avez-vous accompagné votre association et le prix Artemisia?
Bah écoutez, moi j'ai constaté, donc je suis tombée dans la bande dessinée dans les années, comme je vous l'ai dit, 70. Et la production était quand même assez notablement, enfin très très différente de celle d'aujourd'hui, quoi. Voilà, une chose est certaine, c'est peut-être parce que justement ce que je fais est pas assez gentil, pas assez doux, pas assez féminin, pas assez neutre. Toujours est-il que j'ai quand même beaucoup produit et que j'ai très peu reçu en termes de reconnaissance, enfin par les officiels, quoi. Bon, ce dont on peut se passer.
Angoulême est trop masculin.
C'est-à-dire que la reconnaissance va quand même prioritairement au talent masculin.
En même temps, c'est 90% d'hommes.
Aux productions, voilà. Donc justement, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit effort pour saluer les femmes qui ont fait des choses dignes d'intérêt. Il y en a. Donc pas de reconnaissance ou une reconnaissance, comment dire, j'allais dire très ciblée, quoi. Voilà.
Audrey Louette, le regard sur les prix, est-ce que c'est important dans la carrière de...
Oh, je pense dans 10 ans j'aurai une idée très pointue sur la question. Pour l'instant, vous savez, quand même, je démarre ma carrière, j'ai pas une production colossale derrière moi, la plupart de mes auteurs non plus. Donc pour l'instant, de toute façon, nous on mérite, sauf peut-être quelques auteurs un peu plus aguerris comme Aurore ou Al Jazeera, on mérite pas encore de prix. On n'a pas carrière assez lourde derrière nous pour ça. Donc
vous pourriez néanmoins avoir une opinion dessus, mais visiblement, on va prendre rendez-vous pour dans 10 ans.
Voilà.
On va faire ça comme ça. Il est 5h47 précisément, entre Chien et Loup, ce matin, avec la bande dessinée au féminin. Je vous propose à toutes les deux, Chantal Montelier et Audrey Alouette, d'avancer maintenant rapidement sur divers aspects de la bande dessinée au féminin. Et je voudrais avoir votre opinion, et peut-être commencer par vous, Chantal Montelier, puisque je ne veux pas ramener ça à chaque fois à votre propos, mais on a bien compris que vous avez une démarche dès l'origine militante. Est-ce que l'aboutissement n'a pas été, il y a quelque temps, avec le cas de Marjane Satrapi, une belle illustration de ce que pouvait être la BD? Quelle est votre opinion? Je rappelle que Marjane, je sais pas si on dit Marjane ou Marjane,
Marjane
Satrapi est l'auteur donc de Persepolis, qui a été adapté au cinéma, et on sait avec quel succès. Et là aussi, il y a une démarche militante derrière, évidemment.
Et la question est donc, qu'est-ce que je...
Quelle est votre opinion? Est-ce
que Marjane Satrapi,
sur le fait que cette BD ait connu ce succès, qu'elle ait été adaptée au...
Tant mieux pour Marjane Satrapi. Non, bah écoutez, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que le contenu, le récit est complètement intéressant et mérite vraiment d'exister, quoi. Bon, l'aspect formel, l'aspect dessin me laisse plus dubitative. Disons que j'y reconnais peut-être un peu trop la trace de David B, par exemple. Voilà. Donc, je sais pas où commence Satrapi, où s'arrête David B, ou inversement. Voilà. Donc, je trouve ça dommage parce que une bande dessinée, évidemment, c'est du texte, mais c'est aussi du dessin, quoi. Et je trouve que c'est bien quand les femmes, on affirme une identité aussi de ce côté-là.
Là, vous parlez du point de vue technique.
Non, je parle du dessin, du graphisme.
J'entends bien.
Voilà.
Mais
non, je trouve qu'il y a peut-être là quelque chose pour elle à conquérir. Une autonomie, quoi, par rapport à un modèle.
Je pensais que vous alliez me parler de l'utilité et de la puissance politique qui a pu avoir aussi cette BD, ce film.
Enfin, je l'ai dit de manière un peu elliptique, quoi, sur le thème. Oui, bien sûr, le contenu est complètement, complètement intéressant. C'est une vraie histoire. C'est un moment de la vie d'une jeune fille qui est extrêmement fort. L'Iran. La violence politique, la violence politique, mais elle a une histoire, elle a même une préhistoire, cette violence politique. Donc, quand on touche à ces choses-là, je trouve que c'est bien quand on les met en perspective, voilà, un peu plus. Mais c'est un livre qui mérite complètement, en effet,
Audrey Alouette,
d'être lu.
Un avis sur Persepolis?
J'en ai pas particulièrement sur un plan politique. Moi, j'ai trouvé, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film, que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé très sympathique, une narration vraiment sympa, efficace, une histoire de vie passionnante. Voilà, j'ai pas. Après, est-ce que ça fait avancer la femme dans la BD? Bon, tant mieux pour Marjane, ça va s'attraper, comme disait Chantal, voilà, mais.
Alors, on a bien compris que vous avez des styles différents, vous-même, entre des dessinatrices, scénaristes ou éditrices de bandes dessinées. Je vais vous réunir là pour vous opposer, entre guillemets, à l'univers masculin, puisque c'était aussi l'idée de cette émission ce matin. Qu'est-ce qui distingue une BD signée d'une femme de celle d'un homme, au point de vue du dessin, au point de vue de l'humour? Est-ce que les femmes ont plus d'humour, par exemple?
Je crois pas qu'on puisse vraiment séparer les choses de cette façon-là. Enfin, si vous regardez des BD faites par certaines femmes, vous croiriez jamais qu'elles ont été écrites par une femme ou dessinées par une femme. Et inversement, si vous regardez les BD d'Alessandro Barbucci ou de Julien Neal, ça fait justement pour moi beaucoup pour l'avancée de la BD dans le monde féminin, alors que ce sont des hommes qui les ont créés. Moi, actuellement, je milite pas de la même manière que Chantal, mais je milite aussi. C'est-à-dire que moi, mon but avec ma collection, c'est que les femmes deviennent lectrices de BD. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas énormément de lectrices de BD. Si vous vous baladez dans les salons, dans les festivals de BD, vous voyez essentiellement des hommes. Et même moi, en dédicace, j'ai vraiment un public à conquérir. Les gens qui viennent me voir me disent, voilà, c'est pour ma copine, c'est pour ma fille. Il n'y a pas encore ce réflexe des femmes de lire de la BD. On n'est pas très nombreuses, finalement. On est quand même une petite minorité à en lire. C'est vrai que les filles, les jeunes filles lisent beaucoup de mangas, de shoujo, parce que justement il y avait une niche pour elles. Mais en revanche, les femmes adultes se désintéressent finalement assez rapidement. Je parle évidemment en généralité, se désintéressent assez rapidement de la BD et il y a très peu de femmes qui en lisent. Elles se retournent vers le roman une fois passées à l'âge adulte. Donc moi, mon idée avec cette collection, et c'est l'idée d'ailleurs de beaucoup de jeunes auteurs qui arrivent aujourd'hui et même de beaucoup d'éditeurs, c'est donc de conquérir un nouveau public qui, pour l'instant, je ne vais pas dire n'existe pas, mais disons, n'est pas très nombreux, en tout cas.
Chantal Montelier, on propose pas des sujets attirants pour les jeunes filles?
Si on me propose, à moi, des sujets attirants pour les jeunes filles?
Non, je reprenais le propos d'Audrey Alouette, qui, je cherche à comprendre pourquoi les jeunes filles, aujourd'hui, ne lisent pas de BD.
Ah oui, parce que je croyais que votre question, c'était est-ce que il y a une différence entre la bande dessinée féminine et la bande dessinée masculine?
Aussi, c'était la première,
donc,
effectivement.
Donc, je m'apprêtais à y répondre.
Allez-y.
à mon avis, il y a des différences. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes, tout à fait, femmes et hommes, à l'identique, dans les mêmes systèmes de représentation. On n'est pas non plus complètement à la même place dans la société. On n'est pas tout à fait dans les mêmes rôles. On n'a pas le même corps, le même sexe, etc. Et ça apparaît. En tout cas, ça c'est apparu de manière très flagrante quand la revue dont je vous parlais tout à l'heure, Anana, existait. C'était la sœur d'une autre revue qui s'appelait plaît, qui s'appelait Métal Hurlant.
Oui.
Et là, c'était plutôt des talents masculins qui s'y déployaient. Mmh. Et l'identité d'Anana n'avait rien à voir avec l'identité de Métal. Là, on pouvait vraiment voir les différences. Alors, les différences se situaient à plusieurs niveaux. Il y avait une différence au niveau des thèmes. Bon, par exemple, la question de l'avortement. C'était 70, je ne sais plus quand la loi est passée. C'était à peu près dans ces années-là, peut-être un peu.
Simone Veil.
Voilà. Donc, ces questions. Moi, ma première bande dessinée, par exemple, là, c'était une bande dessinée que j'ai faite pour la presse d'opinion. C'était sur la non-application de la loi Veil dans les hôpitaux. Mmh. Et j'ai fait ça sous forme de reportage. Et ça a été la seule bande dessinée sur cette question qui ait jamais été publiée.
D'accord. Je vais être très provocateur. Pardon, mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je sais pas, des jeunes filles de entre 7 et 12 ans, si vous leur proposez une bande dessinée sur l'avortement, est-ce que vous pensez que vous avez suscité une curiosité ou une envie de
lire? Je répondais à votre question qui était, y a-t-il des différences à la bande dessinée?
Pardon.
Non, mais c'est pas ça, c'est que à quoi je réponds, c'est tout. Voilà, donc moi je répondais à votre question sur les différences BD adulte, BD enfant. Les filles, bon, la question des règles aussi, qui a été, et je pense que c'est une des choses qui a fait que la revue était interdite, puisqu'on commençait dans cette revue-là à aborder par l'image, ce qui est encore une chose absolument taboue, même aujourd'hui, je pense, puisqu'on est en pleine régression, j'y insiste, on abordait ces questions-là, c'est-à-dire, quel rapport au corps, quel rapport à sa propre sexualité, à son propre sexe, et on était vraiment, je crois, très... Enfin, il y a eu une certaine audace, quoi.
Je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, les choses se font différemment. Peut-être de façon moins, on va dire, c'est pas forcément le sujet d'une BD aujourd'hui. Mais par exemple, moi, dans ma collection, toutes les petites BD sur l'adolescence, justement, ces questions d'adolescence, des règles, etc., c'est des choses qui vont être abordées, qui se font énormément dans la littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'ils, jusqu'ici, ne se faisaient pas trop en BD, mais justement, je crois qu'on y vient, mais peut-être plus en douceur.
Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'on est venu en 70, quoi. Voilà. Alors, vous y venez, mais c'est pas un fait nouveau, quoi. Parce que la BD, comme tout le reste, a une histoire.
Oui, mais
et que nous, quand on s'est mis à toucher à ces questions-là, on s'est fait taper dessus. Alors, oui. Peut-être parce qu'on abordait ça de manière plus franche, plus directe, mais peut-être aussi parce qu'on était à un moment où c'était encore pas complètement accepté, voire même totalement réprimé.
Mmh. On va continuer à parler de cette bande dessinée au féminin en rappelant qu'il y a ce week-end BDSON au féminin, donc aujourd'hui et demain on pourra...
À Aigny,
où on pourra vous y croiser, Audrey Alouette. Et puis, pour rejoindre les informations, le journal de 6 heures, je vais vous libérer quelques minutes. Et puis, nous reparlerons et terminerons ensemble ce sujet de la bande dessinée au féminin après M et le journal de 6 heures.
Le 5-7, entre chien et loup, Florent Chatin.
À quelques heures maintenant de la journée de la femme, ce sera lundi, nous avons choisi d'aborder ce sujet, la bande dessinée au féminin, avec deux points de vue différents, deux générations et deux histoires, là aussi, qui se distinguent. Chantal Montelier, ouvrière, comme vous le...
Œuvrière
de l'image narrative. Vous avez créé le prix Artemisia, qui récompense... chaque 9 janvier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Date anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir.
Voilà, c'est pour ça que je le précisais.
Encore une horrible féministe.
Et vous êtes dans cet univers de la bande dessinée depuis le milieu des années 70. Et en face de vous, Audrey Alouette, scénariste. Vous avez moins de 30 ans, vous travaillez avec Aix-en-Provence au sein d'un studio qui s'appelle Godferdom.
Voilà, exactement.
Voilà. Et on va terminer ce matin cet échange sur la bande dessinée, ce qu'elle peut véhiculer aujourd'hui et puis ce qu'elle pourrait véhiculer également demain. Comment est-ce qu'on pourrait parler du travail structurellement, hein, de qui fait quoi, du scénariste, du dessinateur, du rôle de la maison d'édition également aujourd'hui en 2010? D'accord. Vous voulez que je passe à la question
de l'ordre de tout de suite. Le ménage, les courses, pas le repassage, par contre, ça n'a jamais suffi.
Vous dessinez vous-même,
absolument, j'en témoigne.
Vous enfantez l'histoire.
Oui, bien sûr. Oui, je fais tout, je fais tout.
Est-ce que on pourrait résumer votre démarche?
Je suis pas payée davantage, je crois. Enfin, il me semble.
Est-ce que ça reste artisanal votre activité aujourd'hui?
Oui, on peut dire ça. C'est entre l'art et l'artisanat.
Entre l'art, donc, ça reste un art la BD quand même.
Mais je crois que ça dépend un peu de la qualité du travail, quoi, enfin, ouais. du dessin notamment, est-ce de l'originalité, de la personnalité.
Vous êtes, Audrey Alouette, vous aussi une artiste et vous êtes considérée aujourd'hui toujours être dans ce neuvième art.
Alors là, en toute honnêteté, être une artiste avec un N majuscule, je sais pas. Enfin, c'est comme le côté de faire une œuvre. Enfin, je sais pas si ça peut se définir de cette façon-là. Moi, je sais que tous les auteurs de ma collection sont très investis dans ce qu'ils font. Ils ont tous leur personnalité graphique et scénaristique. Ils croient tous énormément en ce qu'ils font. Ils aiment se faire plaisir par ce qu'ils font. Pour moi, oui, ce qu'ils font, c'est de l'art. Après, chacun a son avis sur la question. C'est très relatif, l'art.
Comment fonctionne ce studio dans lequel vous travaillez?
Il a été monté par Christophe Arleston et quelques-uns de ses dessinateurs, et Dominique Latil, il y a maintenant, je crois, une quinzaine d'années. Et le principe, c'est qu'en fait, il réunit des artistes, des jeunes, des artistes un peu plus installés, certains qui sont là pour démarrer leur carrière et qui, du coup, recherchent un peu les conseils des aînés sur un plan graphique ou scénaristique. Mais le principe, c'est que c'est un endroit où ça tourne beaucoup. Il y a un grand turnover. Disons qu'il y a des gens qui viennent un certain temps, puis qui repartent. Guillaume Bianco, par exemple, qui a fait Billy Brouillard, est passé par là quelques temps. Nicolas Keramidas aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est passé par là.
Attention, une question qui fait mal. Combien de femmes?
Ah ben, finalement, depuis un an et demi, on est très nombreuses en vérité. On est presque la moitié du studio, justement. Donc chez nous, la parité, elle est plutôt respectée. Bon.
Qu'est-ce qui va faire le succès d'une bande dessinée, au féminin ou pas d'ailleurs? Avant tout, c'est un personnage charismatique, c'est un style de dessin, c'est une histoire...
Je vous répondrai quand j'aurai fait un best-seller. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Chantal Boutelier? On s'attache à quoi au personnage?
Je sais pas, l'éditeur peut-être.
Ça compte aussi le
oh oui, je pense que le travail de l'éditeur, ses choix, sa façon de coacher les auteurs peut permettre de rencontrer le succès, je sais pas, mais en tout cas aider l'auteur à, disons, aller jusqu'au bout de ce qu'il est capable de faire.
Non, puis je veux dire, il y a tout un travail commercial qui est fait ou qui n'est pas fait. Une bande dessinée qui est défendue par une attachée de presse efficace, qui bénéficie d'une bonne médiatisation, qui a des grandes affiches partout dans le métro, même si c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, se vendra mieux qu'une bande dessinée dont personne va parler, que les libraires vont immédiatement renvoyer, parce que je sais pas, elle sera pas politiquement correcte, par exemple.
Une solution pour qu'il y ait un petit peu plus de 10% d'auteurs de bande dessinée en France d'ici quelques années. Ce serait peut-être justement, on va revenir sur cette question-là, mais je vais vous demander une réponse courte, que les petites filles aujourd'hui lisent plus de BD pour peut-être se projeter plus tard en auteur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui dans l'univers de la BD au féminin pour que les petites filles se plongent plus nombreuses dans les BD?
Je suis tentée de répondre ce que je fais. C'est-à-dire que justement, moi je travaille à conquérir ce public. Et puis d'ailleurs, je crois que ça commence un petit peu à marcher, puisqu'en séance de dédicace, justement, j'ai beaucoup de jeunes filles qui ont de 9 à même 30 ans et qui viennent me voir en disant « Ah, enfin, quelque chose pour nous ». Les parents aussi sont ravis, d'ailleurs.
Chantal Montelier, très court.
Bon, je crois qu'il faut que des femmes s'y investissent de manière un peu constante, parce que je m'aperçois que quand même, par exemple, les dessinatrices de ma génération, beaucoup sont apparues et beaucoup ont disparu finalement assez rapidement. Donc, si vous voulez, je crois que pour ce qui est de la bande dessinée masculine, il y a des grands modèles, qui vont des grands classiques, style Hergé, Jacobs et compagnie, ou des moins classiques. classiques comme Will Eisner, par exemple, c'est le nom qui me vient. Donc il y a des modèles, il y a des œuvres, il y a des œuvres. Pour ce qui est de la création féminine, quelques-unes peuvent éventuellement être des modèles. Ouais. Je sais pas, par exemple Claire Boit-Téché, peut-être moi, je ne sais pas. Mais je crois quand même que ça me semble important.
Je tiens à vous remercier toutes les deux d'être venues ce matin en direct sur France Inter pour parler de cette bande dessinée au féminin. Audrey Alouette, simplement à signaler une adaptation d'Alice au pays des merveilles qui sera...
C'est pas une adaptation, c'est une traduction, c'est un beau livre en fait qui reprend la traduction, une traduction d'ailleurs qui est très très bien faite par Martine Céleste de Sol et qui donc...
Qui sortira en mars prochain.
Qui sort à la fin du mois, voilà. Tout à fait.
Oui, c'est vrai qu'on est déjà au mois de mars. Et puis, on retrouvera évidemment les références de vos bandes dessinées respectives et on comprendra mieux ce qui vous a réunis ici dans ce studio et ce qui peut vous différencier toute la journée sur le site de franceinter.com. Et puis, je rappelle ce festival de BD au féminin d'Igny ce samedi. On vous y croisera, Audrey, je le rappelle. Et demain, dimanche, Igny, c'est en Essonne. Merci, mesdames.
Merci beaucoup. Monsieur.